بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 7 du mois d'Hijjah, de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 24 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de cette risala de notre noble cheikh, le cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, ainsi que tous les savants de la sunna. Cette risala intitulée « Ma hiya salafiyya » Et on s'est rendu au sixième point de cette risala, l'avant-dernier, dans lequel Cheikh Hafidhahullah a parlé de certaines caractéristiques de la voie salafi et de cette méthodologie bénie, afin que celui qui suit les pieux prédécesseurs le fait avec science. Et ceci est une chose d'une grande importance, ce qui évite pour la personne de changer à chaque fois qu'il y a des troubles ou des tentations de changer de voie et de ne pas changer de voie, et justement de rester ferme sur la vérité qu'on a connue avec des preuves et des arguments. Car la voie de Salaf, c'est pas la voix de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah, ni la voix de Cheikh Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri, rahimahullah, ni d'aucun des savants contemporains. C'est la voix sur laquelle était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-salafiyya, tout simplement, c'est l'islam dans toute son authenticité, basé sur le livre d'Allah et la tradition authentique de son noble prophète, avec la compréhension des compagnons et de tous ceux qui les ont suivis fidèlement sur cette voie, jusqu'à la fin des temps. C'est ça l'islam qu'Allah a révélé sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'islam qui a été pratiqué par les nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous, et la génération de tabi'in et de tabi'i tabi'in, avant l'apparition des innovations et des hérésies, à commencer par les égarements qui ont commencé dans la croyance et qui se sont propagés dans les autres domaines de la religion. Donc l'islam, c'est la religion de vérité dans tous les domaines, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'adoration, dans le domaine des transactions et du troc, et dans le domaine du comportement et des bonnes moralités. C'est tout ce qui lie le serviteur à son créateur et ce qui le lie également aux autres créatures, avec leurs différentes catégories, muslimin, kuffar, al-sunna, al-bid'a, et ainsi de suite. L'islam gère toutes les affaires du serviteur, dans tous les domaines. Et s'il n'y avait que cet argument, que cette preuve rationnelle, alors suffi pour savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Car ce n'est pas possible pour un être humain, en très peu de temps, 23 ans seulement, qu'il vienne avec une loi aussi précise, aussi détaillé dans tous les domaines et sans précédent. Bien évidemment, les arguments de la véracité du prophète sont très nombreux. Certains sont tirés de le Coran et de la Sunna, mais ces arguments-là ne sont pas valables avec un kafir, quelqu'un qui ne croit pas au Coran et la Sunna. Donc, il y a de nombreux arguments rationnels qu'on peut démontrer rien qu'avec la raison humaine saine que c'est un vrai prophète. Taïb, on s'était arrêté sur le passage dans lequel Cheikh Hafidhahullah a commencé à citer quelques arguments sur ses caractéristiques. Naam, il a cité les caractéristiques. Il a cité quelques arguments en les énumérant et les paroles des hommes de science, mais là, il va en citer d'autres qui montrent que ces caractéristiques sont bien tirées du livre d'Allah et de la sunna authentique de son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des paroles de As-Salaf. Il a dit « ومن الأدلة على هذه السمات أو على بعضها » Parmi les arguments qui démontrent ces caractéristiques ou certaines d'entre elles, le premier argument qu'il a cité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قول الله تعالى آمرا بالاعتصام بحبله المتين محذرا من تركه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc parmi ces arguments, c'est la parole d'Allah dans laquelle il nous ordonne de nous cramponner à son câble solide et nous met en garde contre son délaissement. Il dit « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Cramponnez-vous au câble d'Allah tous et ne vous divisez point. Il a dit aussi « مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » Dans le sens approximatif, ce verset, c'est dans Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina farraqu dinahum » Il a dit « Wa anna hadha inna munibina ilayhi wa attaquuhu » Afwan, ce verset, il est dans Sourate Al-Rum. Il est dans Sourate Al-Rum. Il a dit « منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: revenez donc vers lui repentant, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas de ses associatres qui ont divisé leur religion en devenant plusieurs sectes, et voilà que chaque partie se réjouit de ce qu'il a. Chaque partie se réjouit de ce qu'il a. وَقَالَ تَعَالَى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah dit, dans le sens approximatif, « Voici ma voie en toute sa rectitude, suivez-la et ne suivez point les sentiers qui vont vous éloigner de sa voie. C'est ce qu'il vous enjoint afin d'atteindre la piété. » Wa yaqulu ta'ala, « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, lasta minhum fi shay. Innama amruhum ila Allahi, ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Donc c'est celui-là le verset de Surat Al-An'am, dans lequel Allah nous dit dans le sens approximatif, ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes, tu n'es en rien responsable. Leur affaire est du ressort d'Allah, qui les informera de ce qu'ils faisait. Et les versets sont très nombreux à ce sujet, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être unis dans notre attachement à la vérité. et dans lesquels il nous met en garde et il nous interdit la division entre les gens de la vérité. Et rappelez-vous toujours que la division qui est blâmée en islam, c'est la division entre les gens qui suivent la vérité. Amma, la division entre les gens qui suivent la vérité et ceux qui suivent l'égarement, elle est demandée et elle fait partie de l'islam et elle est nécessaire. Et c'est comme ça que notre prophète a été décrit par les anges dans le ciel. Ils ont dit « Muhammadun farraqa baynan nas ». Et c'est comme ça que ses ennemis l'ont décrit. Ils ont dit « Cet homme nous a divisés. Il a divisé les membres de la même famille. » Naam, la vérité, elle divise. Lakin, ce qui est blâmable en islam, c'est la division entre les gens qui suivent la vérité. Car si on dit suivre l'islam, l'islam, il est unique. Et la vérité, elle est unique. Donc, il n'y a aucune raison qui légitime et qui justifie la division. Sauf le suivi de la passion. Les gens de la vérité doivent être unis. Et ça, c'est une force pour eux et pour la vérité à laquelle ils s'accrochent. Et quand ils se divisent, ils deviennent faibles. Ils deviennent faibles. C'est pour ça que leurs ennemis peuvent favoriser cette division et la faciliter et l'encourager. Car ils savent que ça affaiblit les gens de la vérité d'être divisés. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. Donc شيخ a rapporté une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans laquelle il dit « Vous savez que parmi les grandes règles qui sont la somme de la religion, le pivot de la religion, Jima ad-Din, c'est quoi ces grandes règles ?» qui représente le pivot de la religion de l'islam. L'axe central, la somme de la religion. Il a cité d'abord, et c'est bien d'écouter ces choses-là, là c'est vraiment l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Il dit, premièrement, ta'lif al-qulub, unifier l'union des cœurs. L'union des cœurs. Ça, c'est la première. Yani, c'est parmi les plus grands objectifs de l'islam. L'union des cœurs. Wajtima al-kalima. Et la cohésion de la communauté. Ou l'unité des rangs. Que les musulmans soient tous unis. Dans un seul rang. Avec le cœur d'un seul homme. Tous. Sur la même vérité, sur la même voie. Ils adorent le même créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent le même prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa salaha dhati al-bayn. Et la troisième, il a dit, wa salaha dhati al-bayn. La réconciliation des liens fraternels. La réconciliation des liens fraternels. Ça, c'est parmi les plus grands objectifs de la religion de l'islam. Et bien évidemment, comprenez qu'il n'y a pas d'union des cœurs possible que sur la vérité. Sur Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est pour ça, l'unicité de l'adoré, avant l'unicité des rangs. Et non pas comme réfléchissent les frères musulmans, qui cherchent d'abord à unir les gens, quelle que soit leur croyance. Ils prétendent que le travail sur l'union des cœurs et l'union sur la vérité viendra plus tard, mais chose qu'ils ne font jamais. Ce qui compte le plus pour eux, c'est d'avoir plus de voix, plus de suiveurs. Mais on sait très bien que ce qui compte, ce n'est pas le grand nombre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité des suiveurs. Regardez l'exemple du prophète alayhissalam et de ses nobles compagnons. Ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Ils étaient dans une ville seulement, Médine, une toute petite ville à l'époque. Lakin, ils ont changé l'histoire de l'humanité. Ce qui compte, c'est la qualité. C'est d'être sur la vérité d'abord. De faire du travail sur soi-même, sur sa famille par la suite. Et de ne cesser d'élargir ce cercle jusqu'à englober toute la communauté et toute l'humanité. Lakin, le travail commence par un travail individuel, une réforme personnelle. Apprendre Tawhid. Celui qui ne détient pas une chose, il ne peut pas la transmettre à autrui. En arabe, on dit « Faqidu shay'i la yu'tih ». Si moi, je ne connais pas Tawhid, comment je vais enseigner Tawhid à mes enfants? Donc, je dois commencer par ma personne et commencer par les gens les plus proches de moi, les membres de ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'a fait notre prophète, alayhi salatu wasalam. Cette religion a commencé avec un seul homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَذَكَرَ بَعْدَ الْآيَاتِ ثُمَّ قَالَ. Et ensuite, Cheikh l'Islam a cité quelques versets qui appuient ces trois pivots de la religion, ces trois grands objectifs de la religion de l'islam. Rappelons-les, l'union des cœurs, l'unité des rangs et la réconciliation des liens fraternels. Et ensuite il a dit « وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي تَأْمُرُ بِالْجَمَاعَةِ وَالْإِئْتِلَافِ » Et beaucoup de textes dans lesquels il y a l'ordre d'être attaché au groupe et à l'union des cœurs ou la convergence des cœurs. وَتَنْهَا عَنِ الْفُرْقَةِ وَالْإِخْتِلَافِ Et dans lesquels il y a l'interdiction de la division et de la divergence blâmée. Vous savez, dans la divergence, nous avons une divergence autorisée. C'est la divergence qui est liée à la nature humaine et à la divergence dans la compréhension des textes. Une divergence autorisée. Mais cette divergence ne peut pas avoir lieu dans des fondements de la religion, dans lesquels il y a consensus. Les points dans lesquels il y a consensus, il ne peut pas y avoir de divergence tolérée. Lakin, dans d'autres points dans lesquels il y a une divergence, par exemple comme dans les questions de la croyance, les fondements de la croyance, dans lesquels il n'y a aucune divergence. Seulement la divergence entre les adeptes de la sunna et les suiveurs de l'innovation et des passions. Amma, entre les gens de la vérité, il n'y a pas de divergence dans les fondements de la croyance. Et aussi dans certaines questions de la jurisprudence, dans lesquelles l'unanimité des savants est rapportée. Personne n'a le droit de venir avec un nouvel avis dans ces questions-là. Dans d'autres questions qui sont sujets d'efforts d'interprétation, masail shihadiya, il y a une divergence entre les savants et le serviteur est tenu d'étudier les différents avis et de regarder ce qui lui semble le plus proche de la vérité et le suivre. Il peut discuter avec son frère qui a pris un autre avis dans le cadre de cette divergence autorisée. Remarquez, il n'y a pas de divergence qui est louée. اختلاف لا يوجد فيه اختلاف محمود إما سائر وإما مذموم car ce qui est loué c'est l'union dans les textes لكن il y a une divergence qu'on ne peut pas éviter à laquelle on ne peut pas échapper car elle est liée à la nature humaine et à la compréhension des textes Et ça, c'est dans des questions qui sont sujets d'efforts d'interprétation dans lesquels les savants ont divergé et chacun de nous est tenu de chercher la vérité pour la suivre. Lakin pour celui qui a les outils. Ça, c'est pas un discours qui s'adresse à quelqu'un de la masse, un ammi. L'ammi, son devoir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Lakin, on est à une époque où tout le monde pense avoir la possibilité d'étudier la divergence. Car l'étude de la divergence nécessite la possession d'outils. Ce qu'on appelle l'alat, les outils de la compréhension. Comme al-nahu, comme sarf, comme al-balara, comme usul tafsir, comme usul fiqh, comme ulum al-hadith, et ainsi de suite parmi les sciences qui sont des outils de la compréhension. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Celui qui ne sait pas, il revient aux hommes de science, de confiance, il leur pose la question, ils lui font le fatwa, il suit ce qu'ils lui ont dit. Et supérieur à ce degré, c'est le degré de celui qui a les outils, qui peut étudier la divergence des savants. Remarquez que c'est un degré qui ne lui permet pas d'aller directement vers les textes. Et on a encore un degré supérieur qui est le degré de l'homme de science qui va directement dans les textes. Taïb. Il a dit ensuite « Wa ahlu hadha al-asli hum ahlu al-jama'a » Et ceux qui s'attachent à ce fondement, c'est-à-dire l'union des cœurs, l'unité des rangs et la réconciliation des liens fraternels, Il a dit, ce sont les gens du groupe. De la même manière que ceux qui bafouent ce fondement sont les gens de la division. Sont les gens de la division. L'union fait partie des fondements de l'islam. Regardez ici, cher l'islam, c'est pas non seulement il l'a cité comme un fondement de la religion. Il l'a cité avec les deux autres, comme les trois plus grands fondements de la religion de l'islam. C'est pour ça, bafouer ce fondement, ça fait sortir de la sunna. Ça fait sortir de la sunna, bafouer rien que ce fondement de l'union des gens de la vérité autour de la vérité. Et dans un autre passage, toujours de Majmou' al-Fatawa, il a dit, rahimahullah, Cheikh l'islam Taymiyyah, il a dit, « Walihada » وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. C'est pour ça que le groupe sauvé a été décrit comme les gens de la sunna, les adeptes de la sunna et du groupe. Jama'a, on peut traduire par le groupe ou par le consensus. Et les deux sont justes. وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. Et les gens de la sunna sont le plus grand nombre des musulmans. Contrairement à ce que disent certains innovateurs, certains égarés, qui disent que la plupart des musulmans sont des asha'ira. Et peut-être que vous avez déjà entendu cette ambiguïté répétée par certains asha'ari, qui disent comment, yani, bien évidemment, le grand nombre n'a jamais été un signe ou un critère avec lequel on reconnaît la vérité de l'égarement. On distingue la vérité de l'égarement avec les preuves et les arguments. Les suiveurs de Iblis représentent 999, ou là comme peut-être vous dites, 999 sur 1000. 999 sur 1000. Ça, c'est les suiveurs de Iblis tout seul, à lui tout seul. Et tous les prophètes, 124 000 et quelques, et tous les messagers, leurs suiveurs, c'est 1 sur 1000. Donc ça, c'est pour ça, ça. Yani, dès que tu entends quelqu'un s'appuyer sur le grand nombre pour yani, prouver la véracité d'une chose, sache qu'il est à côté de la plaque. On peut s'appuyer sur ça après avoir cité les autres arguments. Lakin, c'est pas un critère qui nous permet de distinguer la vérité du faux. Mais Al-Sunna al-Jama'a sont le plus grand nombre de muslimines. Et ce qu'ils disent, la plupart des muslimines, c'est des Ash'ari, ça c'est faux. Il faut savoir, ya ikhwa, que la croyance Ash'ari, même les savants Ash'ari, il y a beaucoup d'entre eux qui ne comprennent pas cette croyance dans certains détails. Alors, que dire de faire comprendre cette croyance à un ami? C'est impossible. Yani, ce qu'ils appellent kasb, par exemple. Les savants Ash'ari divergent au sujet de ce que veut dire ce terme déjà, qui a été utilisé par Abu al-Hassan al-Ash'ari, et qui est revenu à la voix de l'imam Ahmad et la voix de Salaf. Mais l'Ash'ari nie cela, malgré qu'il a écrit deux ouvrages dans lesquels il affirme revenir à la voix de l'imam Ahmad, la méthode de Salaf. طيب. وأما الفرقة الباقية إلى زوتخو سكت يلدي فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. يعني ce sont ceux qui suivent les avis étranges, qui suivent la, qui sont, qui appellent à la division et aux innovations et aux passions. ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية. Et chacune de ces sectes n'arrive pas dans le nombre de ses suiveurs à ceux qui suivent la sunna. Regardez le khawarij par exemple. Le nombre de l'khawarij, le nombre de l'ikhwan, le nombre de sofia, le nombre de tablir comparé au nombre des muslimines. Yann al-muslimin, à la base, ils sont sur le fitra, ils sont sur sunna, ils sont sur la religion de l'islam. ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بمقدارها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. Et certaines de ces sectes égarées, يعني leurs suiveurs sont peu nombreux. وشعار هذه الفرق, et c'est quoi le mot d'ordre, c'est quoi l'emblème de toutes ces sectes qui s'éloignent de la sunna, il dit وشعار هذه الفرق, c'est quoi l'emblème de toutes ces factions, de toutes ces sectes, leur mot d'ordre, مفارقة الكتاب والسنة والإجماع, c'est le renoncement au livre d'Allah et à la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام et au consensus, la rupture avec le livre d'Allah et la sunna et le consensus. Le deuxième argument, قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة. Donc النبي عليه الصلاة والسلام a dit, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, Allah agrée pour nous trois choses et déteste pour nous trois choses. Il agrée pour nous qu'on l'adore sans rien lui associer, et qu'on se cramponne au câble d'Allah tous sans se diviser. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم. Et Allah réprouve pour nous قِيلَ وَقَال. قِيلَ وَقَال, يعني c'est le colportage, le commérage, les on-dit, tous les discours vains dans lesquels il n'y a pas d'intérêt. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ, et l'excès de questions qui sont dues à une mauvaise curiosité. poser des questions, que pour poser des questions. Normalement, le croyant, il doit poser des questions sur des sujets qui le concernent, des sujets qui sont importants pour lui, que ce soit pour ses affaires mondaines ou ses affaires religieuses. Amma poser des questions qui sont nourries tout simplement par une curiosité, sans aucun intérêt ni profit, quand il apprendra la réponse, ça c'est détestable. Et les savants, et surtout parmi les savants auxquels j'ai assisté, et qui ont des magnifiques réponses, que vous pouvez trouver même sur Internet, il y en a qui ont compilé ces réponses de Cheikh Al-Fawzan à des questions de ce genre-là. Des questions sans intérêt. Est-ce que Iblis est marié? Il a dit, j'ai pas assisté à son mariage. Est-ce que Isa alayhi salam, quand il va descendre, il va être comme ça ou comme ça? Il a dit, quand il descendra, on t'informera de comment il va descendre. Yani, ça c'est une manière de répondre. La Nahirwa, il faut savoir que répondre à toute question, ça c'est le fou qui répond à toutes les questions. Il y a des questions dont la réponse, c'est de ne pas donner de réponse, afin d'éduquer la personne. Yani, si tu consacres tout ton temps à ce qui te concerne directement, ça ne te suffit pas. Alors pourquoi tu perds ton temps dans des futilités? Et hada, Nabi sallam, ja'ala min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Vous avez étudié ça dans l'Arba'a an-Nawawiyya, dans lesquels il y a les fondements de l'ahadith, les bases, les grandes règles. Parmi les ahadith dans l'Arba'in, An-Nawawi rahimahullah, en suivant ce que Ibn Salah a fait, il a mentionné ce hadith, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Un signe de la bonté de l'attachement de la personne à l'islam, c'est qu'il va délaisser tout ce qui ne le concerne pas, car il est très occupé par ce qui le concerne. وكثرة السؤال وإضاعة المال et le gaspillage des biens. Le croyant, il gaspille pas les biens qu'Allah lui a donnés. Le croyant n'est pas avare, lakin il ne gaspille pas non plus. Il dépense avec une juste mesure. Il dépense dans les choses dont il a besoin. Le croyant n'achète pas parce qu'on lui a fait une publicité. Il achète parce qu'il a un besoin. Et c'est ça que la mondialisation, le capitalisme déteste. Entre autres, dans la religion de l'islam, qui éduque les musulmans à acheter en fonction de leurs besoins et non pas en fonction de ce qu'on veut qu'ils achètent. Zad al-Imam Ahmad fil Musnadi wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yani vous avez remarqué que dans cette version sont cités deux seulement parmi les trois choses qu'Allah agrée pour nous. Dans le riwaya de l'imam Ahmad, Cheikh a cité le riwaya de l'imam Ahmad qui permet de, dans laquelle nous avons la troisième, que vous conseillez votre gouverneur. Et le conseil porté au gouverneur, à ceux qui détiennent l'autorité parmi nous, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne les gens notables, les gens qui peuvent accéder auprès du gouverneur, qui peuvent le conseiller. Ça, c'est pas pour tout le monde. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عند هذا الحديث في التمهيد. Donc l'imam ibn Abd al-Barr, quand il a cité ce hadith dans son livre Tamhid, dans lequel il a expliqué Al-Muwatta de l'imam Malik, un des plus grands ouvrages qui ont été écrits dans l'islam, les deux ouvrages de l'imam Ibn Abd al-Barr de l'Andalus, de Qurtuba, Andalusi Qurtubi, rahimahullah ta'ala, un grand imam Maliki Salafi dans l'Aqidah, dans toute la croyance. C'est pour ça que le Malikiya de l'Andalus ne l'aime pas beaucoup. malgré que c'est un des plus grands savants de l'Andalus. Je ne connais pas un livre comme le sien dans le fiqh, que ce soit Tamhid ni l'Istidkar. C'est pour ça qu'ils étaient mentionnés comme les plus grands ouvrages qui ont été écrits dans l'histoire, dans le fiqh, dans l'histoire des muslimines, avec le Majmou' de Nawawi et le Muhalla d'Ibn Hazm et le Mughni de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, Tamhid de l'imam Ibn Abd al-Barr. وفيه الحظ الى دي دون par rapport à ce hadith il a dit وفيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان. Il dit dans ce hadith une incitation à se cramponner, à s'attacher à la au câble d'Allah tout en étant unis et tout en étant unis fi hal ijtima'in wa itilaf et amour entre nous et union entre les croyants. Et le câble d'Allah ici dans son explication, deux choses ont été citées. C'est quoi le câble d'Allah ici? Il a dit la première Kitabullah, le livre d'Allah, Al-Qur'an. Et la deuxième, le groupe ou le consensus. Il a dit, il n'y a pas de groupe sans imam. Et rapporté de Omar radiallahu anhu qui disait, il n'y a pas de groupe sans imam, il n'y a pas d'imam sans écoute et obéissance. À quoi sert l'imam si on ne l'écoute pas et on ne lui obéit pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit que les deux explications qui ont été données par les hommes de science du câble d'Allah, que c'est ou bien le livre d'Allah ou le groupe, sont deux sens proches l'un de l'autre. Car le livre d'Allah ordonne l'union et l'unité des cœurs et interdit la division. Et ensuite, il a cité quelques versets qui appuient ce sens-là et cette compréhension. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, dans son grand livre qui s'appelle Minhaj Sunna An-Nabawiyya, en 9 volumes, il a dit, dans lequel il a expliqué ce que c'est le câble d'Allah. Il a dit Fussira habluhu bi kitabihi. Donc regardez ici, Ibn Taymiyyah, il va citer tout ce qui a été dit par Salaf au sujet de l'explication de Hablullah. Il y en a qui l'ont expliqué par le livre d'Allah. Et vous savez que dans le tafsir, quand on étudie au sol le tafsir, les fondements de l'exégèse du Coran, yani c'est l'outil qui te permet de bien expliquer le Coran. Tu apprends les règles qui te permettent d'expliquer le Coran conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs. Nous apprenons dans cette science que Salaf, des fois, explique le verset par un exemple. Et c'est pour ça que vous allez trouver plusieurs explications. Car chacun va l'expliquer par un exemple. Ce qu'on appelle tafsir bil mithal. L'explication avec un exemple. Je dis, c'est quoi être bon avec ta mère? Tu me dis, lui donner un cadeau. L'autre, il dit, lui rendre un service. L'emmener là où elle veut aller, l'accompagner dans une balade. Ce qui est très difficile à notre époque, lui consacrer du temps, s'asseoir avec elle et l'écouter parler. C'est ce qui est la meilleure chose pour elle, lakin peu de gens peuvent accorder ces choses-là à notre époque, à leurs parents et à leurs enfants. Taïb. Donc ici, il a dit, ça a été expliqué par le livre d'Allah, la religion d'Allah, l'islam, la sincérité, l'ordre d'Allah, le pacte d'Allah, l'obéissance à Allah, le groupe. Il a dit, toutes ces explications ont été rapportées des compagnons et de leurs suiveurs. Et de leurs suiveurs sur la même voie avec fidélité jusqu'au jour de la résurrection. Et toutes ces explications sont justes. Toutes ces explications sont justes. Regardez comment il va le démontrer. Il a dit, car le Coran ordonne la religion d'Allah, qui est l'islam. Et l'islam, c'est le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cramponnement et l'attachement à tout ça ne peut se faire qu'avec le groupe. Et la véracité de la religion de l'islam, c'est la sincérité. De faire sincèrement pour Allah. De vrai, sincèrement pour Allah, en ne voulant que sa satisfaction et son agrément. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit également, à propos de ce hadith, il a dit « لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. » Allahu Akbar. Il dit « Il n'y a pas eu de faille ni de désordre ni de trouble dans la religion des gens et dans leurs affaires mondaines qu'avec le manquement à une de ces trois choses-là. » Rappelons-les, les trois choses qui sont mentionnées dans le hadith. L'unicité d'Allah et l'éloignement de shirk, la première. Le cramponnement, yani, ou là, je vais les exprimer d'une manière plus simple. La première, d'adorer Allah sans rien lui associer. La deuxième, d'être uni sur la vérité. Et la troisième, d'écouter et d'obéir à notre gouverneur tout en lui portant le conseil. Et si vous revenez à Hadith l'Irbad ibn Sariya, vous allez trouver les mêmes. Et là, ça vous montre yani, rahma qu'avait le prophète alayhi sallam pour les membres de sa communauté. Dans la dernière exhortation, il leur fait des recommandations dans lesquelles il leur donne les bases auxquelles, si jamais ils s'attachent, bi'idnillah, ils seront préservés dans toute leur religion et dans toutes leurs affaires mondaines. Et c'est là où vous allez constater le danger de ceux qui vous appellent à bafouer un de ces trois fondements. Ceux qui vous appellent au shirk, sous prétexte que c'est l'amour des vertueux et des saints et des alliés d'Allah, comme les soufis. Ceux qui vous appellent à sortir du groupe des musulmans, comme le Khawarij, et tous les innovateurs appellent à ça, sans exception, comme ont dit les salafs. Ils terminent par ce point. Il y en a qui commencent dès le départ par ça, comme le Khawarij. Ils sont clairs dès le départ, ils veulent renverser le gouverneur, ils veulent prendre le pouvoir, ils l'annoncent dès le départ. Lakin hatta les soufis, même s'ils ne disent pas ça au début, mais quand ils arrivent à un stade, obligés, c'est le gouverneur et les deux. C'est pour ça, vous voyez, vous connaissez peut-être Jama'at Tablir. Vous savez que Jama'at Tablir, cette secte égarée, ils ont un émir dans chaque pays. Même dans les pays de l'islam. C'est pas le gouverneur ou la... Non, non. Ils ont leur émir à eux. Lakin, ils montrent l'obéissance au gouverneur temporairement. Jusqu'à avoir le pouvoir et l'opportunité de le renverser, ils n'hésiteront pas à le faire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est de rester dans l'écoute et l'obéissance à nos gouverneurs dans ce que Allah nous a ordonné. Car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Mais ça ne veut pas dire, Anna, le gouverneur t'a ordonné de faire un péché, tu ne le fais pas. Sauf si tu crains pour ta personne. Tu le fais sous la contrainte. Tu crains pour ta personne. Et t'es excusé, t'es pardonné. Lakin, le Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, na'am, on écoute et on obéit. Sauf s'ils nous ordonnent un péché. Mais le jour où il nous ordonne un péché, il n'y a plus d'écoute, plus d'obéissance. Alors, sinon, ils disent non. On continue à écouter et à obéir tant que c'est un musulman. Mais par contre, on désobéit juste dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement. Ça, c'est un point très important. Dalil al-Thalith. Donc, Cheikh a cité le troisième argument sur ces caractéristiques de Al-Sunnah al-Jama'a. Il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah al-Fatiha. Ihdina s-sirat al-mustaqim, s-sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Le verset 6 et 7 de Surah al-Fatiha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif, et ni dans cette surah, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, et non ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son précieux livre, Irathatul Lahfan, min Masaid al-Shaytan. Vous savez, il y a deux livres qui sont très importants dans lesquels nous apprenons à connaître notre ennemi, Shaytan. Il y a plusieurs livres, là, qui les deux les plus importants et les plus complets et les plus bénéfiques que je connais, c'est celui-là de l'imam Ibn al-Qayyim, Irathatul Lahfan min Masaid al-Shaytan. Dans lequel tu apprends à connaître cet ennemi et connaître ses ruses et ses stratagèmes et ses insufflations et comment il travaille avec le croyant. Et le deuxième, c'est celui d'Ibn al-Jawzi qui s'appelle Talbis ou Iblis. Talbis ou Iblis. Il est aussi très profitable. Taïb. Dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim dit: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو. Donc en parlant de يعني هذا le droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre. Il dit c'est quoi الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. C'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Qu'Allah les agrée tous. Wa huwa qasdu as-sabil. Et cette voie, c'est la droiture. Et c'est la tempérance et la modération. Et comprenez que la voie sur laquelle était le prophète Isa al-Salam, ainsi que ses nobles compagnons, c'est ça le juste milieu. Il n'est pas demandé aux croyants d'inventer le juste milieu. Le juste milieu dans la religion et la modération, c'est tout simplement de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا خَرَجَ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ السُّبُلِ الْجَائِرَةِ. Et tout ce qui sort de cette voie, de la droiture, ce sont les voies injustes et iniques. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط. L'iniquité, ça peut être, elle peut être grande dans la sortie de la voie droite. Quelqu'un peut sortir d'une manière importante de la voie droite. وقد يكون يسيرا. Et ça peut être un écartement et une sortie de la voie droite qui est légère. وبين ذلك مراتب لا يحصيها الا الله. Et entre les deux, quelqu'un qui sort de la voie droite avec une petite innovation et quelqu'un qui sort de la voie droite avec de la mécréance et de l'associationnisme, entre les deux il y a ce que il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut compter comme catégorie d'égarement. وهذا كالطريق الحسي. Et ceci, il dit, est comparable à une voie matérielle, une voie perceptible avec les sens. الطريق الحسي. Qu'on peut percevoir avec les sens. en opposition le tariq al-ma'nawi. Tariq al-ma'nawi, immatériel. فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا وقد يجور دون ذلك. Si tu regardes quelqu'un qui suit يعني une route entre Bruxelles et Paris, il peut s'écarter de la route directe qui conduit d'une ville à une autre légèrement, une petite déviation. Donc il y a moyen de reprendre la bonne route facilement. Et comme il peut s'écarter d'une manière très importante où c'est quasiment impossible de rejoindre la voie droite qui mène à l'objectif, à la destination. Il a comparé ça, pour comprendre ces choses-là, souvent l'être humain arrive à comprendre les sens abstraits en donnant des paraboles et des exemples concrets. Ça facilite la compréhension. Et ça peut être utilisé dans énormément de domaines dans la religion. Quelqu'un qui dit que c'est difficile, c'est loin de se rendre à la mosquée pour la salat en groupe. C'est difficile, c'est loin. Si on te dit il y a 1000 euros à l'arrivée, devant la porte, on donne 1000 euros à chacun. Est-ce que tu vas sortir des prétextes comme ça? Non, c'est loin, c'est difficile, c'est compliqué. Non, personne ne va dire ça. Wallahi, et je jure par Allah que ce que tu obtiens en te rendant à une mosquée pour faire une seule salat obligatoire est bien meilleur que cette dunya depuis son début jusqu'à sa fin. Toutes les richesses et les trésors qu'elle contient. Car ce qui est éphémère ne peut jamais être comparé à ce qui est éternel. Et Nabi alayhi salam se servait souvent de ces exemples et de ces comparaisons entre des choses mondaines et des choses de la religion avec ses compagnons. Il y a plusieurs hadiths dans lesquels Nabi alayhi salam a donné des paraboles de ce genre-là. Il y en a, quand tu réfléchis de cette manière, après tu as honte de ne pas y aller. Mais quand tu ne raisonnes pas comme ça, tu te dis, Annie, je suis excusé. Lakin, tu te dis, pour 50 euros, j'y vais, moi. Il y en a le premier. Ouais, 5 euros, j'y vais, Anaga. Et je ne vais pas y aller pour Annie, la deuxième meilleure adoration qu'Allah aime. Et subhanallah, quand tu fais cet effort, et quand tu mets cette intention et cette détermination, et c'est là où les portes du bien s'ouvre devant toi. Il n'y a plus le problème du gasoil, j'ai pas l'argent, j'ai pas... Tout ça disparaît de ta vie. Essaye, tu vas voir. Lakin, si tu suis la voie de la faiblesse, oui, Annie, j'ai pas l'argent, je suis au chômage. Et pour la... Ne calcule pour tes courses à... Je sais pas les magasins que vous avez, Auchan, Lachon. Fais des calculs. Lakin, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la religion, ne fais pas de calculs. T'as ou t'as pas. J'ai pas, la yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Amma j'ai, je commence à faire des calculs, ça c'est mauvais. C'est ce que le Nabi a.s.w. a enseigné à notre mère Aïcha. Ne pas faire des calculs avec Allah subhanahu wa ta'ala. La tuhsi fa yuhsi Allahu alayk. Même dans la femme dans son foyer, quand elle prépare, elle commence pas à compter comme... Les Occidentaux font deux pommes ou deux carottes ou deux tomates. On prend comme ça. On ne compte pas. 250 grammes de viande. Dans notre religion. Alhamdulillah, dans nos coutumes, c'est pareil. Dans notre religion, c'est aussi comme ça. Tu prends comme ça. C'est pas au gramme près ou là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne de ses richesses. Car les richesses d'Allah sont inépuisables. Lakin, il te teste. Est-ce que tu réussiras le test ou pas? Taïb. Ensuite, il a dit, l'imam ibn al-Qayyim, il poursuit en disant, فَالْمِيزَانُ أَلَّذِي تُعْرَفُ بِهِ الْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْجَوْرِ عَنْهُ هُوَ. Donc c'est quoi la juste mesure. C'est quoi la balance avec laquelle on peut savoir quelle est la droiture et quel est l'éloignement de cette droiture. Quel est l'éloignement de la droiture et quelle est la droiture? Il a dit huwa ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu alayhi. C'est sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons qu'Allah les agrée tous. Wal ja'iru anhu imma mufarritun. Et celui qui dévie de cette voie droite. Celui qui dévie de cette voie droite. C'est quoi la voie droite? C'est sur quoi était le prophète Hassan et ses compagnons. Dans leurs croyances. Dans leurs adorations. Dans leur compréhension de la religion et des textes. Dans leur comportement. Dans tous les domaines. La méthodologie salafi, elle est infaillible. Mais moi, je ne suis pas infaillible. Un salafi n'est pas infaillible. On peut faire des erreurs. Lakin la voie, c'est une méthodologie. C'est l'islam, il est infaillible. C'est une certitude. Il n'y a pas de doute. Ceux qui ont le doute, c'est les gens de l'innovation. Pour eux, il n'y a pas une vérité absolue. Et ça, je l'ai entendu de plusieurs égarés. Qu'Allah nous guide et les guide. Qui disent, Ado, ils ont un peu de vérité, Ado, ils ont un peu de vérité, Ado. Mais il n'y a pas une vérité absolue. Non, on ne parle pas des individus. Salafi n'est pas infaillible, même si c'est un homme de science. Lakin, ce qui est infaillible, c'est la méthodologie salafi. La manière de comprendre l'islam qu'avait le prophète A.S. et après lui, ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous. C'est pour ça qu'il dit ça, c'est la droiture. Et ce qui dévie de ça, c'est les voies de l'iniquité et de l'injustice. Et ceux qui vont dévier, il va citer quatre catégories de gens qui vont dévier de cette droiture. La première, Al-Mufarrit, Al-Zalim, ou Afwan, il va citer trois. Il va citer trois. La première catégorie, il a dit Al-Mufarrito al-Zalim, le négligent injuste. Donc pourquoi il n'a pas été sur la droiture sur laquelle était le prophète A.S. Par négligence. Il le sait. Il reconnaît qu'il est qu'il est négligent, qu'il a des manquements. Le deuxième, Mujtahid al-Mu'awwil, ou Mujtahid al-Muta'awwil. Le deuxième, c'est quelqu'un qui va faire des efforts d'interprétation, mais qui va se tromper. Il n'est pas dans la voie droite à cause de ses efforts d'interprétation. Et le troisième, Muqallidun Jahil, un suiveur aveugle, ignare. Il y a ni quelqu'un qui est dans le suivi aveugle. On lui a dit c'est comme ça, il a suivi. Donc ça, c'est les trois catégories de ceux Afwan. Donc ça, c'est la trois catégories de ceux qui vont dévier de la voie droite par négligence, par fausse interprétation et mauvaise interprétation, par imitation et suivi aveugle. Et tout ça a été interdit dans notre religion. La négligence est blâmée et également les autres. فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِقْتِصَادَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِقْتِصَادُ وَالْإِعْتِصَامُ بِالسُنَّةِ وَعَلَيْهَا مَدَارُ الدِّينِ. Alors, étant donné que les trois ne sont pas autorisés et les trois ont été blâmés et défendus, alors il ne reste qu'une seule chose, c'est le suivi avec modération, le suivi avec modération et le cramponnement à la sunna. Et c'est ça le pivot même de la religion. Et c'est ça le pivot même de la religion. C'est quoi le pivot de la religion? C'est de suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. De comprendre comme il a compris. Et de pratiquer comme il a pratiqué. Et d'adorer Allah comme il l'a adoré. Et de ne rien rajouter dans la religion de ce qu'il n'a pas enseigné et légiféré. Alayhi salatu wasalam. فَمَنْ لَزِمَ Fin de citation de la parole de l'imam Al-Qayyim. Cheikh Abdullah Al-Bukhari dit فَمَنْ لَزِمَ السَّلَفِيَّةَ الْحَقَّةَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ كَانَ وَسَطًا بَيْنَ فِرَقِ الْهَلَاكِ وَالضَّلَالِ إِذِ الْحَقُّ وَسَطٌ بَيْنَ ضَلَالَتِهِ. Donc celui qui se tient à la salafia en toute vérité, c'est pas ce qu'ils appellent salafia al-jihadiya. Ça c'est pas une salafia, ça c'est des criminels. Mais celui qui se tient à la salafia en toute vérité, avec science et équité, il sera dans un juste milieu entre les sectes qui sont vouées à la perdition et l'égarement. Car la vérité est un juste milieu entre deux égarements, est une guidée entre deux égarements, est un juste milieu entre deux extrêmes. Est une lumière entre deux obscurités et ténèbres. Et il a rapporté la parole de l'imam Al-Awza'i dans laquelle il dit « Ma min amrin amara Allahu ta'ala bihi illa arada ash-shaytanu fihi bi khaslatayni la yubali ayyuhuma asaba al-ghuluwu aw at-taqsir. » Et cette parole a été rapportée de beaucoup de salaf. D'ailleurs, il va la citer de l'imam Al-Awza'i, ça a été rapporté de Soufyan. L'imam Al-Qayyim la mentionne souvent dans ses ouvrages, dans laquelle il est dit qu'il n'est d'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que Shaytan n'y insuffle de penchants extrêmes. Et il ne se soucie guère vers lequel le serviteur va s'orienter. Vers l'exagération ou vers le laxisme. Vers l'exagération ou le laxisme. Ce qui compte pour Shaitan, c'est de t'éloigner du juste milieu qui est l'islam tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Et l'imam Al-Qayyim dit وَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ إِمَّا تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه. Donc l'imam Ibn Al-Qayyim il rapporte cette parole dans le même sens à peu près, il dit qu'il n'y a pas d'ordre d'Allah sans que le shaitan y insuffle deux penchants extrêmes. Yani, le premier, vers la négligence et le laxisme. Et le deuxième penchant, vers l'excès et l'exagération. Et peu importe pour lui ce qu'il arrive à obtenir du serviteur, parmi les deux péchés. Le pousser vers l'extrême, ou là le pousser vers l'exagération, ou le pousser vers le laxisme. Peu importe. L'exagération comme le khawarij, le laxisme comme les soufis. فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَى قَلْبِ الْعَبْدِ فَيْشَامُ. Et ça c'est très important, c'est très intéressant ce point que l'imam Al-Qayyim va citer ici. Il a dit qu'un shaitan, il vient, il se rapproche du cœur du serviteur. Il le renifle. Il sent vers quoi tu penches naturellement. Car Allah nous a créés chacun avec une nature différente de l'autre. Il y en a qui penchent naturellement vers la dureté. Il y en a qui penchent naturellement vers la souplesse et le laxisme. Tu vas trouver des gens qui travaillent très très fort, comme ça. N'attend ni récompense ni rien. Et d'autres, c'est plus, sans plus dans le fainéantisme. Ça, c'est lié à la nature humaine. Shaitan, il va observer ta nature, comment t'es-toi. Et il va essayer de te pousser vers l'extrême qui correspond à ta nature. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont prêts à devenir des soufis. Sauf s'il apprend la sunna et il se tient à la sunna. Lakin, lui, de par sa nature, il aime bien le laxisme, il aime bien Hadirat. Allah est pardonneur, mais Allah est dur en châtiment aussi. Et d'autres, non. Ils penchent plus vers la dureté. C'est pour ça que tu trouves des jeunes qui ont tellement de haine contre la société dans laquelle ils grandissent, pour une raison ou pour une autre. Dès qu'il apprend à de la voix de Tekfirim, ça lui correspond totalement. Il n'a pas besoin d'argument. C'est ce qu'il cherchait, lui, déjà. Lakin, alhamdoulilah, maintenant, il va pouvoir le faire tout en espérant le paradis et les degrés les plus élevés et le hurlin et tout ce qu'il veut. Alors qu'il se trompe. C'est pas comme ça. Et ça, c'est lié quand tu parles avec les gens. Yani, si tu parles avec quelqu'un qui penche vers Tekfir, tu vas trouver des... Si tu analyses sa personnalité, si tu fais une étude sur son vécu, son passé, tu vas trouver des éléments comme ça. Des maladies du cœur qu'il exprime de cette manière. Et ça le réconforte de trouver qu'il peut pratiquer sa religion tout en faisant ces choses-là. Non, l'islam, c'est de mettre tes passions, tes désirs, tes envies, tout ça de côté, de suivre ce que Allah veut. C'est pour ça que le croyant n'a pas de position jusqu'à prendre connaissance des textes et des arguments. Les gens de l'innovation à Ikhwa, ils ont des positions avant de prendre position, avant de prendre connaissance des textes. C'est pour ça la grande règle chez Al-Sunna, ils disent, Al-Sunnati, yastadilluna, ثم يعتقدون وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. Les gens de la sunna, ils regardent les arguments et ensuite ils vont fonder leur argumentation par rapport à ces arguments. Ils vont avoir leur croyance par rapport à ces arguments. Allah a dit comme ça, alors moi je crois ce qu'Allah a dit. Et non, j'ai déjà une croyance au préalable et je cherche les textes qui l'appuient. Et c'est ce qui les pousse à tordre les coups des textes, comme dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et à falsifier les sens pour les orienter dans leur sens. C'est pour ça que Omar, radiallahu anhu, était très très vigilant par rapport à ça. Il a dit, si quelqu'un parmi les gens de l'innovation débat avec toi et te ramène un verset, ramène-lui un hadith. Car le hadith, il va être explicite. Et le verset, il peut admettre plusieurs interprétations. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On t'a fait descendre la révélation pour que tu clarifies aux gens ce qu'on leur a révélé. Il a dit, فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ تَقْصِيرًا وَفُتُورًا وَتَوَانِيًا وَتَرْخِيصًا أَخَذَهُ مِنْ هَذِهِ الْخُطَّةِ. Si le shaitan y trouve en la personne une négligence, une paresse, une fainéantise, il va le prendre par ce côté-là. فَثَبَّطَهُ وَأَقْعَدَهُ. Et il va ainsi le décourager et l'empêcher d'œuvrer dans le bien. وَضَرَبَهُ بِالْكَسَلِ وَالتَّوَانِي وَالْفُتُورِ. Il va le pousser vers la paresse et la lourdeur. وَفَتَحَ لَهُ بَابَ التَّأْوِيلَاتِ وَالرَّجَاءِ. Il va lui ouvrir la porte des interprétations et des excuses. Pour ça, le croyant, il faut qu'il apprenne à ne jamais se trouver des excuses. Il faut apprendre à ne pas chercher à légitimer ce qu'on fait. On a fait des erreurs, c'est une erreur, point à la ligne. Il ne faut pas commencer à justifier, à expliquer nos erreurs. C'est une erreur, astaghfirullah, atoubouleh, point à la ligne. Donc, il va, Shaitan, il va le pousser à légitimer ses erreurs. Oui, je ne vais pas à la mosquée parce que ça. Oui, je ne contribue pas dans le projet de Dawa parce que j'ai tel problème avec tel père. Et tu peux en trouver des excuses. Par centaines. وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. Jusqu'au point où le serviteur il peut le pousser dans ce sens-là, jusqu'au point où le serviteur peut délaisser complètement les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut délaisser les ordres à cause de ce point. وإن وجد عنده حذرا وجدا. Par contre, s'il trouve chez lui, naturellement, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il trouve chez lui حذرا وجدا. C'est quelqu'un qui est appliqué et qui fait attention. Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose d'étrange pour vous. Vous constatez ça en vous-même et dans votre entourage. Les gens, avant d'être dans la droiture, ils avaient une certaine nature. Et cette nature va ressurgir dans leur droiture. Sauf s'ils la corrigent avec les textes et le Kitab ou le Sunna. Nabi al-Sassam, quand il a été interrogé, qui sont les meilleurs des gens ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami idha faqihu, au faquhu. » Les meilleurs d'entre vous en islam, ce sont les meilleurs d'entre vous avant l'islam. Quelqu'un qui avait des principes avant de connaître l'islam, avant de connaître Salafi, qui ne mentait pas, qui était honnête, qui ne trichait pas, qui avait des valeurs et des principes. Celui-là, quand il entre en islam, il devient meilleur. Parce que l'islam va l'embellir encore plus. Et celui qui était mauvais avant l'islam, ou bien il doit se réformer, ou là il va garder ses vices, mais par contre il va tous les légitimer avec l'islam. Khariji, il va voler l'argent des non-muslimines, sous prétexte que ce sont des non-muslimines. Et alors, est-ce que le Nabi Islam a fait ça? Non. Taïb. Il a dit, s'il trouve en lui une application, un sérieux, quelqu'un qui fait très attention, qui fait des efforts, une persévérance, alors il saura qu'il ne peut pas le prendre par la paresse et le fainéantisme. Celui-là, ce n'est pas possible. Il faut qu'il fasse des choses, Allah. Il ne peut pas rester à rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Amarahu bil ijtihad zaid. Donc, il va lui ordonner de redoubler d'efforts et d'exagérer dans les efforts. Comme le Khawarij. Le Khawarij, il faisait plus d'adoration que les compagnons. Lakin, sans compréhension. Il faisait plus d'adoration que les compagnons, comme le Nabi Islam a dit avant de les voir. وسول له ان هذا لا يكفيك وهمتك فوق ذلك فوق هذا. Il lui dit, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas suffisant. Toi, tu es quelqu'un qui a une grande détermination, une grande volonté. Tu peux faire beaucoup plus. Et subhanallah, j'ai rencontré des jeunes, dès qu'ils entrent en islam, ils commencent à jeûner le lundi, le jeudi, 3 jours par mois, 3 jours par hadith. Yani, tu vas où comme ça? Choyer. Islam commence petit à petit. Fais un petit peu, fais 3 rak'at de l'witr. Après, augmente au fur et à mesure. Amma, dès le début, tu fais énormément, c'est au-dessus de ta capacité. Même si Shaitan te donne l'impression que tu as la capacité. Mais en réalité, tu ne l'as pas. Tu n'as pas la foi qui va avec tous ces efforts que tu fournisses. وَسَوَّلَ لَهُ أَنَّ هَذَا لَا يَكْفِيكَ وَهُمَّتْ وَيَنْبَغِي أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْعَامِلِينَ وَأَلَّا تَرْقُدَ إِذَا رَقَدُوا. Tu ne dois pas dormir quand il dorment. Tu ne dois pas rompre quand il rompe, le jeûne. Et ainsi de suite, jusqu'à le pousser à l'outrance et l'excès. Et il le pousse à tomber dans l'exagération et la transgression et le dépassement de la voie droite. Comme il a poussé les autres à tomber dans la négligence et le laxisme. ومقصوده من الرجلين. On termine juste ce paragraphe d'Ibn al-Qayyim et on arrête, Inch'Allah. Et l'objectif et le but de Shaitan, des deux hommes, celui qui l'a poussé dans le laxisme et celui qui l'a poussé dans l'exagération, son but et son objectif des deux hommes, c'est de les faire sortir du droit chemin. Celui-là, afin qu'il ne l'approche jamais. Et le deuxième, afin qu'il le dépasse. C'est qui ne va pas l'approcher ? C'est celui qui est dans la négligence. Et c'est qui va le dépasser ? C'est celui qui est dans l'exagération. وَقَدْ فُتِنَ بِهَذَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ وَلَا يُنْجِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا عِلْمُ الرَّاسِخِ. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il va dire ici. On a compris quelques méthodes de Shaitan pour égarer le fils de Adam. Donc qu'est-ce qui va nous préserver de ça ? Qu'est-ce qui va nous sauver après l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Il a dit la plupart des gens sont tentés par ces deux formes d'égarement. Et il n'est sauvé de cela que celui qui a une science ancrée. Ilmun rasikh. Il faut apprendre, il faut qu'on apprenne notre religion. L'ilm, la clé de tout bien en islam. Ilmun rasikh. Wa imanun, une foi forte et ferme. Wa quwwatun ala muharabatihi, une force et ardeur à combattre Shaitan. Wa luzumul wasati, et le fait de se tenir au juste milieu. Wallahul musta'an, et c'est Allah qui aide, subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى مبينا وسطيه اهل السنه في كتاب العقل. Donc Cheikh al-Islam, il a décrit ce juste milieu de Ahl al-Sunna wal Jama'a dans sa croyance qui est appelée l'aqid al-wasitiyya. Une croyance simplifiée dans laquelle il y a la Cheikh al-Islam Taymiyyah a mentionné les points de la croyance de Ahl al-Sunna wal Jama'a. Il a dit par rapport à ce juste milieu par lequel sont décrits Al-Sunna al-Jama'a, il a dit وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ أَبْوَابِ السُنَّةِ هُمْ وَسَطٍ. Dans tous les domaines de la tradition prophétique, Al-Sunna, ils sont dans le juste milieu. Car ils se cramponnent au livre d'Allah. Et la tradition de son messager, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sur quoi étaient d'accord les premiers parmi les émigrés et les alliés, et ceux qui les ont suivis fidèlement. Fin de citation. Donc, voilà par rapport à ces arguments. Et ensuite, il va citer quelques citations des hommes de science avant le septième point, qui est une conclusion de cette risala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne fin et de prendre notre âme tout en étant sur l'islam authentique qu'il aime et qu'il agrée, l'islam sur lequel était notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alameen.